Voilà, bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous. Ok, je dispose de... Il faut qu'on... À moins le quart, ça soit fini, hein, parce qu'après, il y a un vote, tout ça. Ouais, c'est bien, voilà. Voilà, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, je vais donc aujourd'hui commencer par me présenter, parce que beaucoup ne me connaissent pas. Ensuite, je vais vous partager mon projet d'aumônerie et pourquoi je demande à ce qu'ils s'inscrivent dans cette église. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques paroles d'encouragement au travers d'un message. Voilà, je m'appelle Daniel Warzecha, c'est un nom polonais, mais je suis bien du Nord. Je suis un ch'ti, je suis né à Le Forêt. Et puis, j'ai 63 ans, je suis marié, j'ai 6 enfants, nous avons eu 6 enfants, et nous avons 8 petits-enfants, un petit garçon et 6 petites filles, 7 petites filles. Mais vous en avez vu quelques exemplaires quand nous étions ici l'autre jour au repas à la GAP, je ne sais plus c'était quand, au mois de mai je crois, c'est ça? Au mois de mai, c'était d'ailleurs une superbe journée. Voilà, alors quelques informations me concernant. Je suis encore professeur d'université pour quelques mois, bientôt à la retraite. Je suis prof à l'université de Lille. Je suis aussi pasteur. J'ai cofondé une église à Hénin-Beaumont il y a de cela maintenant très longtemps, une quarantaine d'années. J'ai été membre de cette église et responsable pendant 35 ans. J'ai servi cette église comme responsable, d'abord responsable des jeunes, des pasteurs des jeunes, et après j'étais pasteur senior, pasteur principal pendant une dizaine d'années. Et puis en 2018, après avoir servi cette église, mon épouse et moi, on sentait que le temps était venu de créer, ou plutôt de créer une église à Thumry, parce que nous habitons Thumry. Ça, c'est très important, parce que ma vie et aussi mon ministère tourne autour de ce village que nous aimons beaucoup, hein, qui est pas très loin d'ici, Thumry, et pour plein de raisons. Et une des raisons, c'est que ce village a une particularité, c'est que il y a un château blanc depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, qui a été acheté par Horizon, comme vous le savez très bien. C'est un village où nous vivons maintenant depuis 27 ans, où il y a un témoignage chrétien depuis des décennies. Hein, au travers du Château Blanc, mais pas que, hein, il y a eu des vagues, des successions de missionnaires qui ont œuvré dans ce village et aux alentours. Et ce château a été une bénédiction non seulement pour le village et les villages environnants, mais aussi pour toutes les églises autour, dont vous en êtes bénéficiaires aussi. Mais pas que, hein, il y a la métropole lilloise, il y a l'ex-bassin minier, enfin bref, le château a été une bénédiction et continue à être une bénédiction, à arroser spirituellement toute cette région. Et puis il y a eu bien sûr le taekwondo pendant plus de 16 ans, et puis tout ce que nos bien-aimés missionnaires coréens ont fait et continuent à faire. Et donc le château faisait partie des choix que nous avons, faisait partie des critères qui ont fait qu'on a voulu s'installer à Thumry. Et puis quand j'étais responsable à Hénin-Beaumont et puis aussi pasteur, on a toujours entretenu des liens très forts au travers d'actions de toutes sortes avec le Château Blanc. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire. Et puis on a aussi tissé des liens d'amitié avec beaucoup qui habitent Thumry. Bon, Robert et Sylviane, hein, on se connaît depuis plus de 30 ans, mais aussi Chris et Nora. Et puis, autour de 2017-2018, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que mon fils, qui était à Auchy-les-Orchies, a pu acheter un logement, et ce logement, c'était le logement des Chris et Nora Morton, qui eux-mêmes, par cet argent, achetaient un autre château. Vous savez, le Thumry, c'est une histoire de château, hein. C'est la vie de château, Thumry. Le château dit du paradis. Voilà. Que certains connaissent. Et, donc, il y a eu ça. Moi, chez moi, on avait un grand jardin, je sentais que j'en avais marre de tondre ma pelouse. Je disais, ce serait bien qu'on construise une maison. On a construit une maison avec mon fils Étienne, que vous savez, et mon autre fils Timothée est venu en 2018 dire, ben moi, on sent qu'il faut revenir en France après avoir vécu 10 ans en Angleterre. Ils sont venus en France et c'est eux qui occupent la maison du jardin. Voilà. Et puis voilà qu'il y a eu cette conjonction de choses qui a fait que, et puis aussi les Morton qui achetaient le château du paradis, et donc on a senti collectivement que c'était le temps de créer, ou en tout cas de continuer quelque chose à Thumry, parce que c'est pas une création, l'église elle existe hein, à Thumry depuis très longtemps, mais on sentait que c'était le temps de Dieu pour créer quelque chose ensemble à Thumry, et c'est ce qu'on a fait. Depuis 2019, nous sommes une association culturelle, pas cultuelle, mais culturelle, avec évidemment l'ambition de devenir une église, bon, Dieu voulant, mais on lui fait confiance. Voilà un peu le tableau général dans lequel s'inscrit, dans lequel je m'inscris hein, en tant qu'individu. Et puis maintenant, je vais vous parler de l'aumônerie et puis le lien avec l'église de Wavrin. Alors d'abord, l'aumônerie, les prisons, parce qu'il y a aumônerie, on peut être aumônier à l'hôpital, on peut être aumônier dans les écoles, mais il y a aussi l'aumônerie dans les armées, mais il y a aussi l'aumônerie en prison. Et moi, depuis longtemps, hein, ça remonte maintenant à une dizaine d'années, j'avais à cœur les prisonniers. Le Seigneur m'a mis à cœur les prisonniers. Et puis, pour des tas de raisons, matérielles, techniques, humaines, temporelles, j'ai pas pu mettre à mener à bien ce projet, voilà. Et puis, le temps passant, je sentais en moi la nécessité que ça devienne une réalité. Et j'ai commencé une démarche vis-à-vis de l'aumônerie protestante, hein, parce que je m'inscris dans ça, depuis maintenant 2 ans. Alors, bibliquement, pourquoi être aumônier ? Le Nouveau Testament, hein, il y a deux épisodes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de prisonniers, des prisonniers. Il y a le récit de Jésus, vous le savez, dans Matthieu 25, j'y viendrai tout à l'heure, où Jésus dit aux nations, hein, plusieurs choses, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Voilà, il y a ça. Il y a cette parole-là qui se trouve dans Matthieu 25. Donc, les prisonniers font partie des gens que le Seigneur veut toucher. Hein, voilà. Ils font partie de ces petits d'entre mes frères. Et puis, il y a aussi un autre passage dans Hébreux 13, qui nous dit de ne pas oublier les prisonniers et de ne pas oublier les prisonniers et de se mettre à leur place. Voilà. Le mot exact, je vais chercher dans ma Bible. Voilà, comme si vous étiez vous-même des prisonniers. Ça veut dire de se mettre à la place d'eux. Il y a comme une parole d'empathie par rapport aux prisonniers. Ça peut nous arriver. Voilà. Bon. Et donc, les prisonniers font partie de cette mission de ces gens que le Seigneur veut toucher au travers de l'Église. Voilà. C'est ça ce que j'ai à cœur. Voilà. Alors, maintenant, le lien avec l'Église de Wavrin. Alors, il y a plusieurs raisons. Je vais en énoncer plusieurs, mais il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vais dire. C'est pas premièrement, deuxièmement, troisièmement. Il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. La première raison est une raison, on va dire, spirituelle. C'est que pour exercer la mission d'aumônerie dans les prisons, il faut s'inscrire dans le cadre d'une église. Et je trouve ça juste. Parce que dans le fond, le Seigneur donne la mission d'aller vers les malades, mais aussi les prisonniers, à l'Église, en tant que collectivité, en tant qu'ensemble, voilà, en tant que corps. Et c'est juste, hein, c'est vraiment juste. Et donc, la première chose, c'est que ça doit être la mission d'une Église, voilà. L'autre raison, c'est que il y avait une raison géographique. Il fallait que parce qu'il s'agit de la prison de Sekhna, il fallait que ce soit une église qui soit géographiquement proche. Voilà. Donc ça a du sens que ce soit ici, parce qu'on est à côté de Sekhna, au Bourdin, etc. Donc ça a du sens. Une autre raison, c'est que dans les différents critères pour devenir aumônier, je coche toutes les cases, sauf une, c'est que je n'appartiens pas à une église qui est elle-même membre de la Fédération protestante de France. En tout cas, pas encore. Puis comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on n'est pas très nombreux, on est en construction. Dieu voulant, eh bien, on ira vers ça, vers la création d'une association cultuelle, et puis on va grandir, et puis, eh bien, ça va devenir une église à part entière. Mais il se trouve que, voilà, je ne coche pas celle-là, je n'appartiens pas à une église qui est membre de la Fédération protestante de France. Voilà. Ça, c'est une autre raison, on va dire, technique, administrative. Bon, très bien. Il y a une autre raison par rapport à Wavrin. Alors, c'est peut-être la plus intéressante dans toutes les raisons, c'est que avec vous, on a commencé, ça date pas d'aujourd'hui, un relationnel, une relation, depuis maintenant un certain temps. Il y a le fait que géographiquement, on est proche, voilà, Thumry, c'est pas très loin d'ici. Spirituellement, on est proche aussi, puisque depuis maintenant plus d'une année, nous nous réunissons au château du Paradis, au château blanc, pour la prière, pour savoir ce qui est dans le cœur de Dieu par rapport à cette région de Thumry et aux alentours. Y participent Jean-Luc, les Rives qui sont thumrysiens, nous, voilà, les Mortonnes, Rémy est déjà venu une fois, bref, il y a tout ce tissu relationnel qui est en train de se faire et puis qui a créé une atmosphère, je veux dire, spirituelle, juste, favorable, paisible, où on s'entend, où on prie ensemble. Et tout ça crée une amitié, une fraternité qui fait que naturellement, je veux dire, les rapprochements se font. Voilà. Il n'y a pas à se creuser la cervelle, à faire des efforts. Voilà, il y a une amitié qui se fait. Et puis, il y a des choses qui ont été mises, vécues en commun. Bon, récemment, l'agape, voilà, le culte commun, l'agape. On a fait à Noël une célébration à l'église Saint-André de Thumry, et puis ça a été un franc succès. Et puis, ça a aussi été un franc succès, pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce festival de lumière que tu as organisé, mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà, toutes ces petites choses font que ça prend du sens. Voilà, ça prend du sens d'être ensemble. On dit toujours, voilà, tout à l'heure on a fait une boucle, on est ensemble, mais ça peut être que des mots. Mais là, il se trouve que c'est pas que des mots, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité humaine, c'est une réalité tangible. On a des liens d'amitié, de fraternité avec vous, avec le Château Blanc, avec les amis coréens, et ça depuis des décennies. Et donc il y a tout ce maillage relationnel, tout ce maillage spirituel qui part de Thumry et qui arrose tout. Voilà, c'est toute une relation qui se crée depuis maintenant des années. Et donc le ministère de l'aumônerie s'inscrit dans ce cadre-là aussi, voyez, dans le cadre d'une mission que le Seigneur m'a mis à cœur et que j'ai aussi envie de vivre avec vous. Quand je dis avec vous, l'église de Wavrin, mais aussi avec l'église au sens très large, voilà, parce que aller vers les prisonniers, c'est la mission qui a été donnée à l'église, voilà. De même que d'aller dans le monde entier pour annoncer l'évangile, et nos amis de la vague vont aller bientôt au Sénégal et puis en Guinée, c'est à donner à l'église. C'est l'église qui envoie, c'est l'église qui prie, c'est l'église qui est impliquée. Même si l'église, toute l'église ne se déplace pas, mais c'est quand même l'église, voilà. Ce que nos amis vont vivre en Guinée et au Sénégal, Vous allez vivre aussi, quelque part par procuration, à distance. Mais c'est notre affaire. C'est notre affaire. La mission, c'est notre affaire. La prison, c'est notre affaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes l'Église. C'est notre nature. Le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas ? Je vous ai appelés pour nous envoyer, pour servir. Et donc, quand on regarde l'Église dans sa, dans toute la beauté des expressions qu'elle manifeste, on y voit la beauté de Christ. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et c'est dans ce cadre-là que on peut chacun exprimer son appel. Voilà, on peut exprimer son appel. Et puis, j'aimerais maintenant vous partager quelques paroles, justement, par rapport à... On est appelé à quoi ? On est appelé à quoi, les uns et les autres ? L'Église est appelée à quoi ? Et je vais prendre comme base de ce message Matthieu 25. Enfin, quelques passages de Matthieu 25. Alors, Matthieu 25, vous connaissez, c'est... Attendez, je vais m'organiser d'abord. Voilà, mettre mes lunettes. Alors, nous sommes à la fin de l'Évangile. Nous sommes à la fin de l'Évangile. Et avant de parler de Matthieu 25, je vais parler brièvement de Matthieu 24. Matthieu 24, c'est le discours que Jésus fait sur la fin du monde avant qu'il ne vienne. Okay. Qu'est-ce qui va se passer entre le temps où il va monter au ciel et le temps où il va revenir? Voilà. Et donc c'est le discours sur la fin des nations, sur la fin du monde. Et puis il dit ceci tout à la fin, donc c'est sur la fin des temps, donc la tonalité générale c'est l'urgence à être vigilant, voilà. À être sérieux, car les jours sont comptés, le temps presse, la fin approche, avec tous les signes que l'on connaît, les guerres, les bruits de guerre, la famine, les persécutions des croyants, la séduction des faux prophètes, etc. Je vous laisse le loisir de le lire par vous-même. Et puis, la fin, la conclusion de Matthieu 24, c'est ceci, c'est verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle ?» est prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, regardez le tableau. Le tableau, c'est que la fin des temps approche. Il y a urgence. Et là, Jésus se focalise sur le serviteur. Dans le serviteur, il faut y voir l'Église. Ok ? Le serviteur. Quel est son travail ? D'abord, de être fidèle. Le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens. Et ça, c'est clairement l'Église. L'Église. Pour donner la nourriture au temps convenable. Et on verra ce que c'est cette nourriture. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc là, ici, Jésus, il dit, voilà ce que doit être le fidèle, le serviteur fidèle. Il est fidèle, le serviteur, et prudent. Et il donne la nourriture à ces gens de façon autant convenable. Et puis ensuite, il donne un contre-exemple. Le serviteur méchant, voilà, qui fait n'importe quoi et qui sera jugé. Alors, ensuite vient 25, le chapitre 25, qui nous dit, dans trois récits, ce que doit être le serviteur fidèle et prudent, ce que doit être l'Église, voilà. Fidèle et prudente, qui donne la nourriture aux gens au temps convenable. Et retenez cette phrase, c'est très intéressant. Et ça s'applique à beaucoup de nos situations, à beaucoup de nos ministères et à l'Église dans son ensemble. Parce que la vocation de l'Église, elle est dans ce verset 45. c'est-à-dire le serviteur fidèle ou l'église fidèle que le maître a établi sur ces gens comme une autorité qui vient du maître, voilà, qui a été donnée à ce serviteur fidèle pour donner de la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire pour s'occuper des gens au temps convenable. Et c'est intéressant, on discutait dans la voiture avec Gérard tout à l'heure, qui me disait que leur challenge, leur défi au Sénégal et surtout en Guinée, c'était d'apporter la nourriture de la parole de Dieu, de la bonne façon, au temps convenable, de la bonne manière, pour que les gens sachent d'abord se nourrir, s'entretenir avec cette parole. Et hier, on priait justement au Château Blanc, justement pour que le Seigneur leur donne les outils, les stratégies pour nourrir cette église jeune en Guinée et aussi au Sénégal. Et donc c'est la mission de l'église, c'est notre mission, c'est votre mission, à tout un chacun, collectivement mais aussi individuellement, de donner la nourriture au temps convenable à ceux et celles que Dieu vous mettra à cœur. Et je pense que les prisonniers entrent aussi dans cette perspective-là, d'être nourri, nourri au temps convenable. Et donc c'est le rôle de l'Église dans son ensemble d'être intendante. Voilà, nous avons été établis par le Seigneur pour être intendant de son œuvre. Voilà, l'Église c'est sa propriété, c'est son œuvre, mais nous devons la gérer. Voilà, et nous la gérons en donnant la nourriture au temps convenable. Et dans le chapitre 25, vous avez des exemples concrets de c'est quoi donner la nourriture au temps convenable. Alors il y a trois récits, je vais pas les lire, ce serait trop long, mais brièvement vous les résumer. Il y a trois récits. Le premier récit, c'est la parabole dite des 10 vierges. Vous connaissez l'histoire. Il y a un mariage, on attend le marié, et puis il y a 10 jeunes filles qui attendent et qui se préparent pour la venue du marié. Et donc, comme le temps traîne, comme le marié traîne, eh bien, il faut prévoir d'avoir des lampes et surtout de l'huile pour alimenter les lampes. Et puis, parmi ces 10, il y en a 5 qui ont été prudentes, qui ont prévu de l'huile, suffisamment d'huile, et qui ne sont pas prises au dépourvu. Et puis les 5 autres n'y ont pas pensé, elles ont été imprudentes, elles n'ont pas prévu. Le marié arrive, c'est la fête, c'est le grand chambardement, et puis celles qui étaient sages, donc celles qui étaient prudentes, eh bien peuvent accueillir le marié, tandis que les autres ne le sont pas. Et ça nous parle de quoi? Déjà, globalement, ça nous parle de l'Église, parce que, voilà, c'est comme une épouse. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de quelque chose quelque chose qu'elles ne peuvent pas faire à la place de l'autre, qu'elles ne peuvent pas acheter à l'autre, ni même prêter, encore moins donner ou partager. Et c'est quoi? Eh bien, c'est de veiller. C'est de veiller. De même que la foi, elle peut se transmettre, mais la foi, elle se reçoit individuellement, elle se vit individuellement. De même, la veille, le fait de veiller, le fait d'être vigilant, d'être veillant, eh bien, c'est l'affaire de tout un chacun. Veiller, c'est un état d'esprit. C'est l'appel à la vigilance, à la prévoyance, ne pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire l'époux que j'aime et que j'attends, et qui peut venir d'un moment à l'autre. Donc, suis-je prêt? Suis-je prête? Voilà. Suis-je prêt? Suis-je prête? Et il me faut veiller. Voilà. Et nous savons que l'huile, ça nous parle du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que si je manque de huile, eh bien, je peux toujours aller chez le marchand, parce que l'époux n'est pas encore revenu. Donc, je peux aller chercher de l'huile chez le marchand pour être dans une attente active du retour de Jésus. Voyez ? Et ça, c'est très important, hein, le fait d'être prêt. Et ça, c'est la première mission de l'Église, c'est d'attendre le Seigneur et d'attendre activement son retour. Et ça, c'est donné à toute l'Église collectivement. Il y a un deuxième passage, hein, c'est la parabole dite des sommes d'argent ou des talents, vous connaissez l'histoire. C'est que, voilà, un maître, avant de partir en voyage, il confie ses biens à trois serviteurs. Et à ces trois serviteurs, selon leur capacité, il leur donne au premier cinq sacs d'argent ou cinq talents, au deuxième deux, au troisième un, avec pour mission faire fructifier le bien du maître. Le maître s'en va pour un certain temps. Pendant ce temps, les trois missionnaires sont censés faire fructifier leur talent, leur somme d'argent. Le maître revient, hein, c'est le bilan, et puis il leur demande des comptes. Le premier fait fructifier, de 5 il passe à 10, le deuxième fait fructifier, de 2 il passe à 4, et puis le dernier qui a un talent, qu'est-ce qui se passe en lui? Il a peur. Et puis il cache ce talent, cet argent, parce qu'il a une fausse image de son maître. Il dit oui, tu es méchant, tu es injuste, tu es dur, etc. Et il a eu peur. Et puis il a caché son argent, il lui remet. Et puis à ces trois personnes, le maître leur donne une appréciation. Au premier, bon fidèle et serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Idem pour le deuxième. Et puis le troisième, il le prend au mot. Il dit, mais là, tu n'as pas été sérieux. Si vraiment tu croyais que j'étais ce que tu pensais que j'étais, ben, il fallait mettre en profit ce talent. Voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire? Ça nous raconte que nous avons une responsabilité. Voilà. Là encore. Alors, la première chose, c'est que nous avons tous quelque chose. Il n'y a pas un qui a reçu zéro. Ça, c'est, il faut le dire quand même. Nous avons tous reçu quelque chose. Chacun selon sa capacité. Voilà. Mais il n'y a personne qui a eu zéro. Personne ne peut dire, ah, j'ai rien eu. Non. Nous avons tous eu quelque chose. Pour moi, ça, c'est au-delà de... Bon, ça peut être les dons du Saint-Esprit, mais c'est même au-delà. C'est ce que le Seigneur nous a donné. En intelligence, en capacité, capacité d'organisation, créativité, enfin, quel que soit, argent, finance, tout ça, ce sont des dons qui nous ont été donnés du Seigneur et que nous sommes appelés, en tant qu'intendants, à faire fructifier dans la maison de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. On a tous reçu quelque chose. Tous. Donc ne soyons pas dans la comparaison, mais dans la reconnaissance. Et en même temps, posons-nous la question, ben, ce que le Seigneur m'a donné, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le fais fructifier ou est-ce que je l'enterre? Vous voyez, la peur, tu as parlé de la peur dans ta parole, la peur est mauvaise conseillère, j'ai eu peur. Il a caché son talent. Mais là, la leçon, c'est qu'on est tous responsables de ce que nous avons reçu. Et on comparaîtra tous devant le tribunal de Christ, nous est dit dans Corinthiens, pour rendre compte. Et un tribunal, ce n'est pas forcément pour être condamné, hein, mais pour être évalué. Et c'est juste. Et nous savons que nous avons affaire à un Dieu qui est juste, à un arbitre qui est juste. Voilà. Donc, ça fait partie de la responsabilité de tout un chacun aussi, de faire fructifier ce qu'il nous a donné. Et donc l'idée ici, c'est que nous sommes les gestionnaires de nos vies. Voilà. Les gestionnaires de nos vies. Et là, une autre idée qui se trouve ailleurs dans l'Évangile, très important de savoir comment nous gérons ou comment nous bâtissons notre vie. Voilà. Comment nous le faisons. C'est important de servir, mais c'est aussi important d'apprendre comment servir. Voilà. Parce que dans la mission, quelle qu'elle soit, il y a ce qu'on transmet, il y a aussi la manière dont on transmet. Et je pense à vous, les amis de la vague, alors que vous serez au Sénégal et en Guinée, il y a ce que vous allez transmettre, mais il y a aussi la façon avec laquelle vous allez transmettre qui est importante. Parce que les deux sont indissociables. Le message est indissociable du messager. Vous voyez ? Jésus disait ce qu'il était. Vous voyez ? Il incarnait ce qu'il était. Il en va de même pour le missionnaire. Voilà. Le missionnaire ne doit pas être en contradiction avec ses paroles, par son attitude. C'est extrêmement important. De toute façon, on ne transmet rien si on le transmet mal. Parole d'enseignant. On n'arrive pas à transmettre si on le transmet mal. Moi, je sais d'expérience, en tant que prof, si je braque mes élèves, s'il y a un conflit, une tension, ou quelque chose, je peux raconter n'importe quoi après, je ne transmettrai strictement rien. C'est vrai de toutes les relations humaines. C'est très important, la façon de transmettre. Voilà. Donc, attention à la façon dont nous construisons, et puis un avertissement, la peur est mauvaise conseillère. Hein. L'amour parfait bannit la crainte, dit Jean. Et donc, dans tout ce que l'on fait, ne le faisons pas par peur. Ne le faisons pas par peur, par crainte. Par crainte de ce que les autres vont penser, mais par crainte de ne pas y arriver. Vous voyez, faisons-le avec la pleine certitude que nous sommes envoyés, nous sommes envoyés par le Seigneur, bénis par lui, que si nous sommes disponibles entre ses mains, quoi que ce soit que nous fassions, eh bien, il nous donnera l'huile du Saint-Esprit pour bien faire ce que nous avons à faire. Amen. C'est très important. Et puis, troisième discours, alors ce n'est pas une parabole, c'est le jugement des nations. Là, je vais aller brièvement, vous connaissez le passage. Nous sommes à la fin des temps. Les nations vont être jugées, le Fils de l'homme revient, et puis il y a deux catégories de nations. Les nations, alors, brebis, ou les nations justes, et puis les nations boucs. Et puis arrive le bilan, hein, avec cette parole du roi qui dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et puis vient une liste de gens qui ont reçu. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors après, les justes demandent au roi, « Mais quand est-ce qu'on a fait tout ça ?» Et à chaque fois que vous l'avez fait pour un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite vient ce que dit le roi aux nations boucs, « J'étais malade, etc. Vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, etc. » Alors, ça nous parle de quoi ce passage ? Ça nous dit déjà la responsabilité, alors au-delà des églises, la responsabilité des nations dans lesquelles sont les églises. Voilà. Et ce passage a été notamment utilisé par Martin Luther King, qui, la dernière prédication, avant qu'il ne soit assassiné, en avril 1968, il citait justement ce passage et il disait que, en parlant de c'est quoi une grande nation, hein, il s'adressait au peuple américain, à la nation américaine, il dit, une grande nation, c'est une nation qui fait preuve de compassion vis-à-vis des prisonniers, des affamés, des malades, des démunis, des étrangers. Il avait en tête évidemment les Afro-Américains, mais pas que, hein, on est en pleine guerre du Vietnam. Et les États-Unis se fourvoyaient dans cette guerre, et il leur dit, vous êtes, la nation américaine est à côté de la plaque, parce qu'une nation grande, qui se veut grande, c'est une nation qui a de l'amour, voilà, pour les plus démunis d'entre eux. Et l'Église doit montrer, alors elle l'a fait, hein, doit montrer la voie. Elle l'a fait pendant des siècles et des siècles. Les hôpitaux, c'est les œuvres des chrétiens, les écoles aussi, les prisons. Dans toute l'histoire chrétienne, les chrétiens ont pris ce texte au pied de la lettre. Les hôpitaux, les léproseries ont été mis en place par des chrétiens. Ça l'est aussi beaucoup, c'est beaucoup le cas dans les pays en voie de développement. C'est l'Église qui montre la voie. Et gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mais là, vous voyez, la responsabilité, elle est plus globale. Et notre responsabilité, nous, en tant que chrétiens, c'est de prier pour notre nation. C'est de prier. Ça fait partie aussi de la responsabilité de l'Église, de prier pour notre nation, pour qu'elle soit du côté des brebis et non pas du côté des boucs. Amen. Donc, si je peux me résumer, je reviendrai à Matthieu 24, verset 45, en parlant du serviteur. Si vous avez à retenir quelque chose, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Nous sommes appelés à être ce serviteur ou cette servante fidèle et prudent. Fidèle et prudent, établi par le maître sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Voilà. Méditez sur cette parole. C'est à la fois une parole pour chacun d'entre nous individuellement. Seigneur, montre-moi la parole que je dois donner au temps convenable, au bon moment. Peut-être parfois il faut se taire, parfois il faut parler. Voilà. En tant qu'Église aussi, voilà. C'est quoi être bon, fidèle, serviteur, prudent. Amen. Seigneur, je vais te prier pour nous en tant qu'Église, en tant que corps. Je vais te prier pour chaque personne de cette assemblée qui se sent appelé, qui se sent envoyé pour servir. Chaque personne, je prie pour que chaque personne ici soit, devienne et reste ce serviteur fidèle et prudent, et que chaque personne sache quelle nourriture donner au temps convenable. Et Seigneur, je prie pour que tu donnes un discernement à tout un chacun, aux responsables de cette Église, mais aussi à tous ceux qui sont dans des entreprises, quelles qu'elles soient, d'évangélisation ou missionnaires, de savoir c'est quoi ce temps convenable et c'est quoi cette nourriture. Je prie vraiment pour l'assistance de ton Esprit. Saint-Esprit, sans toi, on n'y arrive pas. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens à notre secours, viens renouveler notre intelligence, notre façon de faire. Ouais, nous, les anciens, on a beaucoup d'expérience, mais l'expérience, ça ne suffit pas. Nous avons vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Ouais, je prie vraiment maintenant que nous soyons tous revêtus à nouveau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous montrer c'est quoi de veiller comme les vierges sages. C'est quoi de mettre à contribution le talent que tu nous as donné les uns aux autres. Seigneur, nous sommes perfectibles. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que tu nous montres la voie. Que tu nous montres la voie. Et je te le demande. Je demande ton assistance pour nos bien-aimés qui vont partir en Corée, qui vont partir au Sénégal bientôt et en Guinée. Je te prie pour nous tous, pour moi-même, qui va aller en prison, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment pour l'assistance de ton esprit. Et puis pour chacun d'entre nous, à son petit niveau. Voilà, nous sommes tous ses serviteurs et nous avons tous besoin de ton assistance au quotidien pour gérer nos enfants, nos petits-enfants, pour leur parler, nos voisins, nos collègues de travail. Partout, Seigneur, soyons ses fidèles serviteurs et prudents. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen.